Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce dimanche 18 juillet. Des restrictions plus strictes commencent à Sydney alors que la Nouvelle-Galles du Sud tente de faire baisser le taux de nouvelles infections au Covid. 105 nouveaux cas enregistrés en Nouvelle-Galles du Sud ce dimanche. Le ministre britannique de la Santé testé positif au coronavirus. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 105 nouveaux cas de COVID-19 ce dimanche, alors que les résidents du Grand Sydney s'adaptent à des restrictions de verrouillage plus strictes conçues pour réduire le taux d'infection. On écoute la chef de Nouvelle-Galles du Sud.
Unfortunately, we still had 105 cases of community transmission, and 27 of those cases were infectious in the community, so they were still active in the community, and that's the number that worries us the most. We've seen that number crop up day in and day out, and as we've explained previously, we won't see the effects of these harsher restrictions until at least 5 or 6 days, because there's a lag in the data.
Des restrictions donc plus strictes sont entrées en vigueur à Sydney et la Nouvelle-Galles du Sud tente de réduire son taux de nouvelles infections de COVID. Les responsables de la santé affirment que les chiffres se stabilisent mais la courbe doit baisser si le verrouillage doit s'assouplir. Depuis minuit hier soir, les nouvelles règles prévoient la fermeture de tous les magasins à l'exception des services essentiels tels que les supermarchés, les banques et les pharmacies. Le secteur de la construction a également été interrompu, ce qui, selon Business New South Wales, coûtera jusqu'à 1 milliard de dollars par semaine à l'économie de l'État. Et les résidents de Fairfield, Canterbury, Bankstown et Liverpool ne pourront pas quitter leur zone de gouvernement local à moins qu'ils ne soient des travailleurs de la santé ou des services d'urgence. Le maire de Canterbury, Bankstown, Cal Asfour, a déclaré que la communauté locale souffre.
I mean, we have a lot of labourers that live in our city. We have a lot of people that aren't sitting behind a desk, from tradies to electricians and plumbers. They're going to be out of work for the next 2 weeks, and this is going to cause massive problems for our community.
Le Victoria a enregistré 17 nouveaux cas de coronavirus acquis localement. On écoute le chef du Victoria.
This morning, we have 16 new cases of coronavirus in the state of Victoria. We have now 217 exposure sites as a result of these outbreaks. That's up from about 160 exposure sites this time yesterday. So growth in case numbers, growth in exposure sites.
Donc, c'est 16 nouveaux cas de coronavirus acquis localement. Et tous les nouveaux cas ont été liés aux épidémies actuelles, avec 2 nouveaux cas signalés parmi les voyageurs d'outre-mer, portant le nombre total de cas dans l'État à 70 personnes. Plus de 50 000 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Il y a des appels pour que les nettoyeurs soient prioritaires pour la vaccination contre le COVID-19, car ils effectuent un service essentiel pendant la pandémie. Les nettoyeurs ont travaillé pendant les fermetures dues au coronavirus en Australie, alors que les efforts pour désinfecter les surfaces dures dans tous les lieux publics et de travail, y compris les trains, les supermarchés et les magasins de détail, sont intensifiés. Lindo Ryan de United Workers Union affirme que les nettoyeurs des employés occasionnels sont plus exposés au virus.
Cleaners need to be vaccinated. They should be first in the queue. And we're pushing for all essential workers to get the vaccination now.
Et puis, des millions de personnes ont manifesté en France contre la vaccination, contre les nouvelles mesures sanitaires. Reportage de Marie Casadebé pour Radio France Internationale.
Le maître mot de ce rassemblement, Pour les manifestants, le pass sanitaire est une atteinte à leur liberté. Le vaccin n'est pas obligatoire, sauf pour les soignants, mais pour Candice, 34 ans, dans les faits, c'est tout comme.
Faire un test toutes les 48 heures, c'est hyper contraignant. Moi, j'organise des activités collectives. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais recevoir du public, toutes les 48 heures, je devrais faire un test. C'est compliqué. Et puis, en plus, il va devenir payant. Donc, ça va déjà d'emblée exclure ceux qui ont moins de moyens. Donc, c'est très stigmatisant et pour moi, c'est une vraie discrimination.
Beaucoup de manifestants précisent qu'ils ne sont pas anti-vaccins. Certains ont même reçu leur dose, mais ils revendiquent tous d'avoir le choix. Le personnel soignant ne l'aura pas. Si ces infirmières refusent le vaccin, elles risquent le licenciement, insupportable pour elles.
Ils étaient toujours en train de nous demander après nous, il fallait qu'on soit là, et là ils nous crachent dessus pour qu'on se vaccine.
Je n'accepte pas l'obligation, puisque depuis le départ, nous avions les gestes barrières, donc il y a le masque. Nous avons eu le public positif au Covid, malgré cela. Moi, personnellement, je n'ai pas été touchée.
Ces jeunes femmes, comme la plupart des manifestants, comptent sur leur ténacité, mais aussi la Constitution pour faire plier le gouvernement. Dès mercredi, le pass sanitaire sera obligatoire dans les lieux culturels accueillant plus de 50 personnes.
Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a été testé positif au Covid-19. Javid est secrétaire à la Santé depuis 3 mois et a soutenu les plans du Premier ministre Boris Johnson d'abandonner toutes les restrictions de Covid et de rouvrir complètement l'Angleterre à partir de demain. Lundi, plus des 2/3 des Britanniques sont vaccinés, mais les experts de la santé mettent en garde contre une réouverture trop tôt. Javid est entièrement vacciné et dans un message vidéo sur Twitter, il a déclaré que ses symptômes étaient très légers.
And I also want to take this opportunity to thank everyone that's been involved in our national vaccine rollout program. Truly, the best of its kind anywhere in the world. If you haven't had your jabs yet, please get out there and get them as soon as you can. If everyone plays their part, you're not only protecting yourself and your loved ones, but you're also safeguarding the NHS and helping to preserve our way of life.
Et maintenant, les inondations qui ont frappé l'Europe et particulièrement l'Allemagne. La chancelière Merkel se rend ce dimanche 19 juillet sur place. Reportage de Pascal Thibault pour RFI.
La solidarité s'est rapidement organisée dans les heures qui ont suivi la catastrophe. Sur place, tout d'abord, ceux qui avaient la chance d'habiter dans les étages supérieurs, épargnés par les flots, ont parfois hébergé leurs voisins. Parents et amis ont pris le relais. Des habitants dans les zones non touchées ont répondu à l'appel des autorités et accueilli des personnes sinistrées. Des organisations composées de nombreux bénévoles ont vu leurs troupes répondre à l'appel. Ce pompier de Saxe, à l'autre bout de l'Allemagne, est à pied d'œuvre. L'Est vient cette fois en aide à l'Ouest. 30 ans après la réunification, la Saxe a été frappé à plusieurs reprises par des inondations dans le passé et avait reçu l'aide d'autres régions.
On va revoir beaucoup de drames, des dégâts, des destructions. C'est triste, mais nous sommes là pour aider et c'est l'essentiel.
Les renforts viennent de différentes régions allemandes, une mobilisation que salue cet habitant de Bad Neuenahr, une ville dévastée par les inondations, Bernhard Jans.
Ce qui est décisif, c'est la solidarité de la population. J'ai discuté avec un jeune pompier. Il m'a dit, on a entendu ce qui vous arrivait, on s'est mis au volant et on est parti pour vous aider.
Les médias allemands diffusent ou publient régulièrement des appels aux dons. Des personnes ont interrompu leurs vacances pour venir spontanément aider leurs compatriotes dans le besoin. D'autres, qui habitent à proximité, distribuent de la nourriture ou des boissons. Les aides d'urgence des pouvoirs publics, elles, devraient prochainement suivre.
En Afghanistan, le corps du journaliste Reuters, Danish Siddiqui, a été transporté dans un hôpital de Kandahar après qu'il fut tué dans des combats entre les forces afghanes et talibanes. Le photographe, lauréat du prix Pulitzer, avait été intégré aux forces spéciales afghanes alors qu'elles se battaient pour le contrôle du passage de Spin Boldak à la frontière entre le sud de l'Afghanistan et le Pakistan. Le photographe de 38 ans faisait partie d'une équipe qui a remporté le prix Pulitzer 2018 pour la couverture des réfugiés Rohingya fuyant la Birmanie. Il était également connu pour ses photographies de la lutte contre le Covid-19 en Inde. Le directeur de l'hôpital régional de Mierwe, le docteur Mohamed Daoud, a déclaré que les autorités remettraient le corps aux autorités concernées.
The body of journalist Danish Siddiqui was handed over to us by the Red Cross last night around 8:30 p.m. local time. After receiving the body, we have respectfully kept it in the morgue and we are waiting to hand over the body to the relevant authorities.
Cuba, avec le gouvernement qui rassemble ses partisans suite aux manifestations de dimanche dernier. Hier, les partisans voulaient défendre la révolution cubaine. Et à Paris, il y a eu cette manifestation en faveur d'un Cuba libre de la part de la diaspora. Reportage Marie Normand, RFI.
Le slogan « Cuba libre » inscrit sur son t-shirt, Escobar Aridel brandit une pancarte « Abat la dictature », revigorée, explique-t-il, par la forte mobilisation du 11 juillet à Cuba.
Ça a été quelque chose de vraiment fantastique. Le peuple a toujours eu peur. Maintenant, il n'a plus peur. C'est une lumière, un espoir que Cuba connaisse un jour la démocratie.
Clémence Sanson accompagne son mari, un artiste cubain qui dit avoir fui la répression. Tous deux regrettent que la préfecture de police n'ait autorisé cette manifestation qu'à 150 mètres de l'ambassade de Cuba.
C'est quand même un petit peu dommage de ne pas être plus proche de l'ambassade et de les regarder dans les yeux. C'est vraiment une position, je pense, de la France qui est assez claire sur comment est traitée la crise cubaine en France.
Orlando préfère ne pas donner son nom pour protéger sa famille restée au pays. Lui aussi dénonce le silence de la France, à qui il réclame une condamnation claire de la répression des manifestations à Cuba.
Ça reste ambigu. Je pense que Cuba ne représente pas un intérêt économique pour la France. Voilà pourquoi on n'en parle pas.
Il l'assure, la diaspora peut faire pression sur le gouvernement de la Havane, dans un pays qui vit en partie des transferts d'argent des Cubains de l'étranger.
Le Festival de Cannes et la Palme d'Or a été décerné à Titane, film de Julia Ducournau. On écoute la réalisatrice elle-même sur RFI.
Je sais que mon film n'est pas parfait. On dit même du mien qu'il est monstrueux. Je me rends compte que la perfection, c'est pas que c'est une chimère, c'est que c'est une impasse. Et la monstruosité qui fait peur à certains et qui traverse mon travail, c'est une arme, c'est une force. Il y a tant de beauté, d'émotion et de liberté à trouver dans ce qu'on ne peut pas mettre dans une case. Merci au jury d'appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres.
Et maintenant, l'analyse du film Titan avec Elisabeth Le Quéré pour RFI.
Elle a mis la croisette à genoux 28 ans après Jane Campion. Julia Ducournau est devenue ce samedi la deuxième femme à décrocher la Palme d'Or. La récompense suprême pour un film qui a été l'électrochoc de cette 74e édition et a largement divisé les spectateurs pour sa violence. À la fois sombre, sensuel, drôle et dérangeant, Titan raconte l'histoire d'Alexia, une jeune femme qui, durant l'enfance, s'est vue insérer une plaque de métal dans le crâne. Devenue adulte, elle décide de changer d'identité et se fait passer pour Adrien, le fils disparu d'un pompier joué par Vincent Lindon. Six ans après Grave, son premier film, déjà très gore, Julia Ducournau, 37 ans, remporte donc la récompense suprême pour un film qui navigue entre fantastique, gore et horreur. En décernant la Palme d'Or à la Benjamine de la compétition, le Festival de Cannes envoie un signal majeur dans un milieu, le cinéma, qui s'interroge plus que jamais sur la place des femmes.
Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 14. Melbourne, 13. Hobart, 13 également. Canberra, 12. Sydney, 18. Brisbane, 20. Cairns, 28. Darwin, 33. Et à Alice Springs, un maximal de 20 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 18 juillet. Des restrictions plus strictes commencent à Sydney alors que la Nouvelle-Galles du Sud tente de faire baisser le taux de nouvelles infections au Covid. 105 nouveaux cas enregistrés en Nouvelle-Galles du Sud ce dimanche. Fin du journal et merci de rester avec nous pour la suite du programme.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.